Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission « Les athlètes de Dieu ». Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne, qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des duos les plus emblématiques du paysage audiovisuel français, Philippe Candeloro et Nelson Montfort. Pendant près de 20 ans, leurs commentaires enflammés ont marqué l'histoire du patinage artistique, mêlant passion, expertise et une complicité devenue culte. Philippe Candeloro est double médaillé de bronze olympique, un patineur audacieux. À ses côtés, Nelson Montfort, journaliste polyglotte à la voix immédiatement reconnaissable. Mais au-delà de leur parcours exceptionnel, Philippe Candeloro et Nelson Montfort partagent aussi une dimension plus intime, celle d'hommes de foi. Ils sont des athlètes de Dieu.
Athlètes de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holy Games.
Bonjour Nelson Montfort.
Bonjour Cyril, bonjour à vous tous.
Bonjour Philippe Candeloro.
Bonjour Cyril.
Merci d'être avec nous, quel plaisir de vous retrouver tous les deux.
Ouais, vous parlez pour vous, hein, parce que pour nous deux, c'est compliqué. Hein.
Vous êtes un duo détonnant. Le feu et la glace. La glace pour Nelson, qui est toujours très classe, et puis le feu dans vos commentaires, Philippe Candeloro.
Oui, parfois ça peut s'inverser, hein. Il peut mettre le feu et moi la glace.
D'autant que la glace, Philippe connaît quand même assez bien, puisqu'il y est toujours, mais il y a passé plus de 40 ans de sa vie. Donc...
Ce qui est bien, c'est qu'entre nous, en fait, on n'a même pas besoin de répéter. Ce n'est pas des sketchs, c'est de la bonne humeur, c'est de la bienveillance. Et, on peut parler l'un sur l'autre sans vraiment se vexer.
Ça, c'est super. Et d'ailleurs, vous êtes au théâtre, hein, actuellement, on le rappelle, une magnifique pièce. Vous êtes en tournée partout en France. Et là aussi, cette amitié, elle est importante pour bien s'entendre et pour bien répéter, Nelson.
Ça patine à Tokyo.
Ça patine à Tokyo, cette pièce.
C'est vrai. De la pièce, une comédie policière écrite par un duo de jeunes auteurs, Crémaski-Grange, qui signe également les mises en scène. Et voilà, c'est vrai que je disais en préparant cette émission à notre amie Isabelle de Châtelu que la représentation, elle dure 1h10, 1h15, mais nous, la soirée, elle dure plus de 2h, parce qu'on va après la rencontre du public. Et là, c'est un échange très, très privilégié.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rencontrés? C'est-à-dire la première fois que vous êtes vus, Nelson et...
Moi, Philippe. Je ne me rappelle pas exactement la première fois, mais moi, Nelson commentait les épreuves de patinage dans lesquelles j'étais. Donc,
c'est vrai que c'est extraordinaire.
Quand j'ai vu la première fois Nelson Montfort, c'est comme quand... Je ne le prends pas mal, Nelson, mais c'est comme quand j'ai rencontré Carlos pour la première fois ou Annie Cordy.
Annie Cordy,
comparaison tout de suite. Mais
Carlos,
voilà.
C'est excellent, un grand chanteur.
Mais non, mais parce que c'est des gens qui ont façonné ton enfance à regarder. Donc en fait, moi, pendant ma carrière sportive, il y avait Nelson qui était le grand commentateur au bord des terrains et tout ça. Et donc, on avait toujours l'impression de le connaître depuis très longtemps. En fait, même en interview, on a l'impression que c'était un pote. Plus qu'une personne qui avait évidemment pas la même, qui avait une différence d'âge entre moi et lui.
Quel talent, Nelson Montfort.
C'est lui qui m'a donné ce surnom qui me colle à la peau, Nelson Montfort, mais le son moins fort. D'ailleurs, c'est une réplique de la pièce, et c'est vrai que le public réagit à chaque fois, parmi d'autres.
Est-ce que, et après on va allumer la première bougie virtuellement, c'est la tradition de cette émission, est-ce que votre rencontre c'est plutôt coup de foudre à Notting Hill ou une amitié qui s'est construite avec le temps, Philippe Candeloro?
Oh non, je pense que... Enfin, je sais pas, c'est un peu les deux à la fois, je dirais. Puisque moi, il y avait bon, le respect de l'athlète avec le journaliste. Et puis après, il y a eu la rencontre professionnelle. La première n'était pas tout...
Pas gagné d'avance.
N'était pas tout feu, tout flamme. Ou tout feu, tout flamme, justement.
Il a fallu d'une certaine façon, Nelson, lui apprendre les codes de la télé, la rigueur du commentaire, parce que vous connaissiez par cœur.
Il a jeté l'éponge dès le départ.
Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Je pense que ce qui fait le charme et l'impact de Philippe, c'est effectivement sa spontanéité. Donc moi, je n'étais en aucun cas là pour le brider. Hélas, vers la fin, d'autres s'en sont chargés. Mais enfin, c'est pas le propos de la
journée. Une autre histoire, ouais, et vous nous avez évidemment beaucoup manqué pour ces Jeux Olympiques de 2026, même si les commentaires étaient brillants, on a évidemment une pensée pour vous deux parce que vous faites partie finalement du quotidien des Français dans des Jeux Olympiques. Quand on allumait la télé, on voulait entendre Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Et là aussi, c'est une belle marque de reconnaissance pour votre travail, Nelson.
Oui, je crois que ce duo, qui souvent on me parle, vous savez, de cette fameuse série Amicalement Vôtre avec...
Persuados.
Voilà, exactement, avec les regrettés Roger Moore et Tony Curtis, hein, de mémoire, avec cette générique, cette bande-son qui était... Oui, ça me fait extrêmement... Oui, mais ça a existé pendant des années. Et Lord Sinclair et Danny Wilde. Et voilà. Et donc, voilà, ce sont des moments... Oui, effectivement, quand... Souvent, les pareil pour Philippe, les chauffeurs de taxi, ils disent « Ah, mais Philippe n'est pas avec vous. » Ce genre de
il est dans ma valise.
Ouais, j'ai dit, ouais. Il est dans ma valise.
Les gens qui me posent cette question à 19h, j'ai mis une soeur, il est déjà couché à cette heure-ci. Parce qu'il n'est pas de le voir.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que 19 ans, on a travaillé ensemble. Alors, on n'a pas eu non plus les super JO, parce que, hormis Turin en 2006, quand on a commencé, il faut savoir que tous les Jeux Olympiques derrière ont été avec des décalages horaires assez importants.
Ouais.
Donc, c'est vrai que si on fait une comparaison avec les Jeux de cette année, là, de 2026, avec surtout
Sochi, Pyeongchang, il y a des décalages horaires.
C'est ça, Vancouver.
Vancouver,
même Sochi. Sochi, on avait 3 ans.
Ouais.
Pékin, on était sous cloche Covid encore. Donc, on n'était pas. Enfin, je veux dire, évidemment, on aurait peut-être pu faire 5, 6 ou 7 millions sans décalage horaire.
Mmh.
Et puis, vers la fin, effectivement, Nelson l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'était plus aussi libre de nos paroles.
Mmh.
Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas sorti des fameuses candélorettes, comme dirait Nelson.
que les téléspectateurs et téléspectatrices adoré.
C'est ça.
Mais oui.
Puis on était venu me chercher pour ça à la base aussi. Hein. Faut le savoir.
Quand on regarde le patinage, et il faut quand même qu'on arrive dans le cœur de cette émission qui est Athlète de Dieu, mais c'est vrai que quand on regarde le patinage pour la majorité des Français dont je fais partie, je ne connais pas bien ce sport. On le regarde tous les 4 ans. Et on a envie de s'amuser. On n'a pas forcément envie d'avoir que de la technique. On a envie de comprendre ce qui est beau. La beauté
alors,
du geste, Nelson.
Le regretté Daniel Bilalian avait surnommé Philippe Michel Audiard. Et moi, il m'avait surnommé David Niven. Ouais. Eh bien, moi, j'adorais ça. D'ailleurs, je rends hommage à Daniel Bilalian qui vraiment a donné sa chance à Philippe. Il me semble bien que c'est... Oui, c'est Daniel qui on se tutoie, on se voit, je ne sais plus.
À l'époque, avec par l'intermédiaire de Thierry Clopeau.
Exactement, qui était le bras droit de Daniel.
Ouais.
Alors, les athlètes de Dieu sur Europe 1, merci d'être avec nous en partenariat avec Holy Games, ce mouvement de l'Église qui est né après les Jeux Olympiques, enfin avant les Jeux Olympiques et pour accompagner les sportifs donc après. On a 4 bougies et on va vous demander d'en allumer une première. Nelson, Philippe, elles sont là. Il y en a 4 petites, il faut que vous en choisissez une. Peut-être que, Philippe, vous pouvez commencer, vous êtes le premier à choisir, et puis après, ce sera Nelson.
Je vais faire l'inverse de ce qu'on nous apprenait à l'école. Je vais choisir rose pour les garçons.
Ah, très bien. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il en manquait une de couleur. Quelle couleur il manque?
Il manque la couleur noire, si on veut se rapprocher des couleurs des anneaux olympiques.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, exact, parce que donc, alors que je ne dise pas de bêtises, USA, enfin Amérique du Nord, Europe, bleue. Asie naturellement jaune, Océanie vert, et effectivement Philippe a raison, il manque l'Afrique. Ça c'est une belle,
c'est magnifique, belle,
parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse la signification des anneaux olympiques. J'en suis pas sûr.
Bravo Nelson.
Ouais.
Et on va faire une chose, c'est que pour la prochaine émission, dès qu'on pourra, on va éditer une bougie en noir et en train de s'arracher les cheveux. Isabelle
Dechaîne. C'est surtout qu'en plus en mettant Holy Games, c'est que nous il y a une institution auprès des Olympiens qui s'appelle Holy. Les Olympiens, en fait.
D'accord.
C'est une association de tous
Olympians.
Les Olympiens.
Olympians.
Donc, c'était O-L-Y. Bon, là, il y a le H en plus. Mais en fait, moi, ça me parle tout de suite sur l'olympisme. Voilà.
C'était quoi cette association
C'est l'association, en fait, des Olympiens.
D'accord.
Donc, vous avez été Olympien un jour dans votre vie. Vous pouvez participer.
Double médaillé de bronze pour vous.
Voilà. Alors, c'est pas forcément que des médaillés. Hein, c'est des gens qui ont participé. Il y a la maison des Olympiens à chaque Olympiade. Où en fait, vous sentez souvent le bienvenu.
Pas toujours.
Plus qu'au CNOSF.
Moi, je me suis. Oui, c'est ce que j'allais dire.
On salue quand même Amélie Doudac.
Philippe n'avait pas d'accréditation nécessaire pour entrer dans. Enfin, on va pas rentrer là-dedans.
Non,
voilà.
Non, on va encore nous dire qu'on est aigri.
Alors, quelle est la phrase de la bougie?
Toi, t'es gris, mais moi, je suis pas aigri.
Philippe, ça va être compliqué là. C'est à la cour d'école. Non, je rigole. La bougie rose, donc vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous lire la phrase alors, Philippe?
Ah, il faut que je sorte les lunettes, je les ai pas en plus. La phrase, qu'est-ce qu'elle dit?
Sinon, c'est Nelson.
J'ai pas mis les loupes.
Par ta victoire, grandit son éclat.
Alors, est-ce que ça vous inspire cette phrase, Nelson? Par ta victoire, grandit son éclat. Vous en avez vécu des victoires? Et vous avez vu un peu que la transformation des athlètes, vous aussi, ces victoires ont forgé votre caractère, votre vie.
Je préfère laisser Philippe répondre parce que moi, j'ai couvert 16 Jeux Olympiques, mais je n'ai jamais eu la moindre médaille. Alors que lui, ni de bronze, ni de chocolat ou de quoi que ce soit.
Enfin, je dirais que ça dépend où on place le mot victoire, en fait. Parce que c'est pas forcément parce que tu gagnes la médaille d'or que t'as, bon, évidemment, t'as remporté une victoire. C'est plutôt la victoire sur soi-même, je dirais. Quand on est aux Jeux Olympiques, alors évidemment, un championnat du monde, ça a de l'importance, mais moins que les Jeux Olympiques. La victoire, moi, je dirais, pour reprendre moi, la victoire, c'est, même si j'ai eu que 2 médailles de bronze olympiques.
Tout le monde aimerait avoir votre palmarès.
Hein. De suite.
Je dis que pour l'association au bronze. Alors qu'une médaille olympique reste une victoire en soi. Pour un athlète de haut niveau, vous pouvez avoir été 10 fois champion du monde. Si vous n'êtes pas une fois sur le podium olympique, vous avez quelque part une amertume.
Concerne beaucoup de patineurs, notamment. Hein,
Donc moi, la victoire, elle est qu'aujourd'hui, je dirais, et l'éclat, puisqu'on parle d'éclat et de victoire, c'est que finalement, moi, les programmes que j'ai réalisés au moment des Jeux Olympiques, ils n'ont pas gagné la médaille d'or, mais ils ont gagné le cœur du public. C'est tout ça qui a donné de l'éclat. Et de la valeur à ces deux médailles que j'ai pu réaliser finalement sur deux Olympiades coup sur coup. Ça, aujourd'hui, je suis pas sûr que dans les prochaines Olympiades et pour le patinage français, on en aura. À part là, en danse sur glace, on a un réservoir plus important. On est une belle maison de l'école de danse française sur glace. On vient de le voir avec Cizeron, qui viendra apporter encore une médaille d'or.
Cizeron et Fourny-Baudry, c'est exceptionnel ce duo.
Cizeron, il faut quand même préciser qu'en 3 Jeux Olympiques, il sort une médaille d'argent et 2 médailles d'or.
C'est ça.
Ils sont pas si nombreux. Et peut-être que. Je sais pas, c'est
encore décidé. Peut-être revenir en 2030. Peut-être. Mais avec peut-être une nouvelle partenaire encore.
En danse,
parce qu'il y a eu Gabriel Papadakis
un petit peu. Et Laurence.
Ça, c'est l'ensemble de leur carrière qui fait. Parce que bon, on peut pas négliger non plus la carrière qu'il a fait avec Gabriel Papadakis. Aujourd'hui, c'est Laurence Baudry-Fournier qui l'accompagne. Est-ce qu'en 2030. On espère qu'ils seront encore là et qu'ils nous ramèneront encore une médaille d'or parce que ça sera vraiment un exploit par rapport au niveau mondial.
Alors, question importante, un peu indiscrète. À partir de quel moment, en tout cas, quel a été votre premier contact avec la foi, Nelson ?
Je dirais que... Je pense que
pas trop de choses à la fois.
Non, mais je dirais que bon, elle m'accompagne quand même depuis mon plus jeune âge. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Il se trouve que j'étais fils unique, que j'ai perdu mes parents dans les deux cas malheureusement assez jeunes, et donc étant fils unique, donc orphelin, on va dire, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai cherché la consolation du Seigneur. Oui, je pense que c'est à ce moment-là. D'autant que mes deux parents sont décédés à peu d'années d'écart. Oui, je dirais que c'est là. Ouais.
Et c'était donc un moment quand vous étiez jeune.
Et... C'est-à-dire que comme je n'avais pas de frères et sœurs et pour vous dire pas de famille, c'est à ce moment-là que ma famille est devenue le Seigneur. Oui.
Et votre famille, elle est là, et bien sûr, vous y pensez. Le lien entre la terre et le ciel.
J'y pense en fait. S'il s'agit de mes parents, j'y pense tous les jours, et je dirais même. Je vais pas dire toute la journée, mais il y a un petit peu de ça. Mais c'est également le cas de personnes qui m'ont accompagné. Peut-être le fait d'être fils unique m'a permis aussi de me constituer une foi chrétienne. Ça c'est certain. Mais également le fait de pas avoir de frères et sœurs fait que j'ai rencontré tout au long du chemin des personnes. Alors je vais peut-être faire rougir mon voisin de gauche, mais qui pour moi sont devenus quelque part des frères et des sœurs. J'ai beaucoup d'amis et c'est assez amusant parce que j'ai des amis dont la plupart ont des frères et sœurs. Mais quelque part je me suis peut-être ils ont l'air plus proches de moi que de leurs frères et sœurs. L'expression Cyril, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Alors ça, je la fais le mien. Totalement.
Oui, c'est vrai. Et vous avez aussi peut-être conduit par le Seigneur, d'une certaine façon, à faire de belles rencontres.
Mais Cyril, je veux pas dire ça pour vous. Je veux pas dire ça pour vous, pour vous flatter. Mais nous, on se connaît pas depuis si longtemps. Mais tout de suite, ça a fait tilt.
Bien sûr.
Or, ça a fait tilt. Pourquoi? Pour ça, parce qu'on, vous savez, on ne parle pas du Seigneur si facilement. Vous ne parlez pas du Seigneur comme ça dans la rue à Pierre, Paul ou Jacques. Encore Pierre, Paul ou Jacques, c'est un mauvais exemple parce que ce sont des apôtres. Et pas n'importe lesquels. C'était donc une expression.
Elle est excellente. On passe un moment absolument exceptionnel dans ce studio CIGL à Europe 1 pour cette émission,
Pierre,
les athlètes de Dieu.
C'est vrai que Pierre-Paul ou Jacques, c'est assez drôle, mais ça m'est venu comme ça.
Ah non, mais vous voyez l'Esprit Saint qui tombe sur vous, Nelson.
Elle n'a pas été faite par hasard, cette expression. De toute façon.
Il travaille à son, ses pièces et ses répliques, Nelson.
Il aurait été capable de sortir les quatre autres. Hein,
mais... Alors, Philippe, c'est à vous. Philippe, la question que j'ai posée tout à l'heure à Nelson Montfort, c'est votre premier contact avec la foi, et je crois que vous êtes d'une famille d'origine italienne, donc on sait qu'en Italie, la foi catholique, elle est très présente, qu'on la pratique, en tout cas qu'il y a des traditions. Est-ce que cette tradition familiale, elle est venue aussi, en tout cas, on vous l'a transmise, mon cher Philippe?
Alors, elle était pratiquée par mes parents, par mes frères et sœurs. Ils ont tous fait catéchisme. Moi, j'ai pas pu le faire parce que j'ai le patinage qui est venu un peu, on va dire, stopper un petit peu cette évolution familiale. Bon, bah, je suis baptisé, voilà, je suis chrétien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose plus la question de savoir est-ce qu'on doit faire baptiser nos enfants, est-ce qu'on doit pas leur laisser le choix demain de leur religion, de leur foi. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, la foi, je l'ai trouvée plus à travers le sport qui, je pense, m'a accompagné. Parce que c'est vrai, quand je regarde l'affiche, là, avec la croix qui brille derrière et le côté sportif, là, c'est...
Très belle affiche.
C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'on se sent accompagné, en fait. Mmh. Donc moi, je suis pas en train de prier Dieu ou quoi tous les jours. Je me dis... Et j'ai l'impression de faire partie de ce monde-là actuellement, de mon passage, pour faire plaisir aux gens, parce que j'ai l'impression que je procure du plaisir aux gens.
Bien sûr.
Et la réussite finalement de ma carrière, de ma vie aujourd'hui, on dit toujours que j'ai une bonne étoile. Donc on ne sait pas si c'est Dieu, on ne sait pas si c'est un autre Dieu. En fait, je n'ai pas cette certitude. En tous les cas, la certitude que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir, une bonne étoile, comme l'a toujours dit mon entraîneur André Brunet, et me dire, tout ce que je touche, tout ce que je vais faire va être... un peu propulsé par une force qui est indépendante de ce que moi je représente. Donc forcément on y croit et c'est pas pour rien que ces deux médailles olympiques, à un moment donné il faut de la chance, il faut la provoquer la chance, il faut être accompagné. Je pense que je suis bien accompagné et j'évite de faire le minimum de conneries pour pas être puni justement et de perdre cette chance qui m'accompagne.
Mais on vous sent intéressé par la foi, c'est quelque chose
qui vous
interpelle.
J'essaie de trouver qu'est-ce que c'est que la foi. On nous l'explique pas, on a foi en soi, on a foi en ce qu'on croit, en nos objectifs. On nous explique pas ce que c'est que la foi quand t'es gamin aujourd'hui. On se sent un peu accompagné. Alors tu me dis, ouais, dans une église, une fois, j'ai eu l'impression d'avoir vu des trucs passer. Alors tu te dis, on va me prendre pour un fou si je raconte ça.
Ah, mais il faut le raconter. Qu'est-ce que vous avez vu passer?
Non, mais tu dis, t'es là, y avait, je crois que c'était sur une messe du dimanche. Alors j'étais tout gamin, de souvenir. Je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Et t'es à côté des copains et des copines. Mais t'as l'impression d'avoir vu quelque chose. Mais c'est pas, toi, c'est pas visible. Peut-être que tu te fais de l'imagination. Alors tu dis, bon, il doit se passer quelque chose. Ça doit exister. Il doit y avoir.
Il y avait de la joie, il y avait quoi?
Bah là, c'était... moi, j'ai juste vu un truc un peu passer devant mes yeux. Puis t'expliquer quoi, aujourd'hui, j'ai pas le souvenir exact. Mais voilà, tu te dis, bon, il doit se passer quelque chose quand même.
Et la Sainte-Messe, c'est quelque chose... en tout cas, pas forcément. Vous n'y allez pas forcément, mais ça vous... ça vous intéresse. Enfin, je veux dire, s'il y a une messe, vous pouvez y aller, et ça vous rappelle aussi votre lien vers l'éternel.
Alors, quand j'ai l'occasion de pouvoir visiter une cathédrale ou tout ça, j'y vais. Donc forcément, tu fais ton signe de croix, tu rentres, tu as beaucoup de respect pour n'importe quelle d'ailleurs religion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend dans une église plus souvent pour des enterrements. Donc c'est pas la joie qui règne à ce moment-là.
Ah, c'est vrai que là, c'est dur, ces cérémonies.
Les mariages, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc, en fait, c'est ce qu'on se dit avec la famille. J'ai encore enterré mon parrain la semaine dernière. Donc, en fait, tu dis au revoir à des souvenirs, pas spécialement à des personnes, mais à des souvenirs qui rassemblent ta vie. Et puis, quand tu commences à passer 50, 60, 70, pour mon ami Nelson, tu dis...
90
C'est toute cette... Il y a de la tristesse en soi, et tu dis, bah vas-y, profites-en, t'en as déjà bien profité maintenant, mais non. Donc, profites-en encore plus, quoi.
Et profiter, c'est quoi? Justement, c'est intéressant, ce terme de profiter, Nelson Montfort. Vous qui avez eu une carrière extrêmement riche et longue, vous avez interrogé les plus grands athlètes. Là aussi, vous avez été béni par tout ce que vous avez pu faire et tout ce que vous avez donné, parce que vous l'avez donné toujours, vous l'avez fait vraiment à fond. On a bien senti que c'était pas n'importe quoi quand vous étiez à l'antenne. Mais comment on fait pour que ce terme profiter, ça soit dans un profit aussi pour les autres?
C'est une très bonne question, une très bonne observation, Cyril. Je pense que moi, aujourd'hui, j'ai effectivement choisi, j'avais deux possibilités, effectivement, après ces 19 ans de commentaires avec Philippe, soit de, comment dire, d'arrêter ou de m'éteindre progressivement. Je suis heureux d'employer cette expression d'éteindre progressivement parce que là, il y a des bougies. Justement,
c'est bon, on va l'allumer peut-être.
Ces bougies, j'ai eu envie de les allumer. Exactement. Oui. J'ai eu envie de les allumer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis, c'est pas une impression, c'est même une certitude. Je suis encore plus occupé que je ne l'étais il y a encore 2-3 ans. Et ça, c'est un choix. Et la grande différence, effectivement, et Philippe ici en est l'incarnation, c'est qu'aujourd'hui, je travaille, si on peut appeler ça travail, uniquement avec des gens que j'aime.
Un grand luxe.
Ici, bon, il est en train de se profiter. Il y a une collaboration avec l'étage d'en dessous ou d'au-dessus, enfin, je ne sais plus.
C'est nous,
voilà. Bon, ben,
c'est
voilà.
Très bien.
Ce sont des gens qui m'accueillent avec cœur, avec générosité, etc. Donc, qu'est-ce que je vais demander de plus ? Je veux dire, voilà. Donc, moi, c'est vraiment... et d'ailleurs, dans notre pièce de théâtre, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Je veux dire, moi, si je ne m'entendais pas avec mon partenaire, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté. Or, non seulement on n'arrête pas, mais au contraire, on va...
Bon, on est sous cacheton, quand même, il faut le dire.
Oh non, mais je ne crois pas.
Vu le montant du cachet, on pourrait s'en dispenser, quasiment.
Mais non, donc, mais il faut le faire pour le plaisir aussi. C'est important de...
Mais parce que d'aller vers... Pardon. Non, mais la pièce qui dure donc 1h15, comme je le disais... Sapatine à Tokyo, qui dure pour nous 2h15 facile parce qu'on va au moins une heure derrière avec le public. Ce sont des échanges irremplaçables.
Nelson Montfort, Philippe Candeloro, on allume une deuxième bougie.
Vas-y Nelson, c'est à toi cette fois-ci.
Symboliquement.
Oui, parce qu'on est dans un studio.
Puisez votre énergie dans le Seigneur. Il se trouve que la couleur jaune, je l'aime depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'était la couleur préférée de mon père. Non, mais c'est pas un hasard. Je porte très très souvent du jaune.
Et vous savez quoi ? C'est la couleur du Vatican.
Ben ça, je le savais.
Du drapeau, oui. Non, mais parce que vous êtes un peu le pape des commentaires. Des commentateurs.
Il se trouve que je passe souvent devant l'Annonciature, là, qui est une petite rue qui donne dans l'avenue du président Wilson, que vous connaissez, rue de l'Argilière, me semble-t-il. Oui, je connais ça. Et donc, effectivement, je connais les couleurs du Vatican. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Ben, écoutez, je crois qu'on vient de répondre à ça. Je vais vous faire une petite confidence. Pas avant une épreuve sportive, parce que moi, les épreuves sportives que je peux faire restent du 10e niveau amateur. Mais souvent, avant un défi, un challenge, ne serait-ce qu'avant... Je pense que Philippe ne me voit pas. Avant d'entrer sur la scène de la pièce de théâtre, je fais un petit signe de croix.
Ah oui, comme un footballeur
Ouais, enfin, il y a beaucoup de footballeurs qui ne le font pas.
Il y a des Brésiliens.
Votre ami Olivier, oui, absolument. Mais moi, je le fais. Oui, sauf que la différence, c'est que les footballeurs le font devant des milliers de personnes. Moi, je le fais tout seul. Je crois que Philippe m'a jamais vu le faire, en plus. Mais voilà, c'est un petit signe de croix.
Mais un beau signe de croix, le beau signe de croix, lentement posé. Tourner son regard vers le ciel,
alors là,
c'est déjà une grande prière. C'est presque la plus belle des prières.
En tout cas, c'est une prière intime et qui, jusqu'à présent, semble plutôt m'avoir porté bonheur.
C'est vrai que on est plus peut-être vindicatif avec la foi quand c'est intime.
C'est là où dans les
messes et tout ça, là il y a une espèce de communauté. Puis aujourd'hui, c'est vrai que même moi, j'avais une petite boucle d'oreille en croix depuis des années que j'ai malheureusement perdue parce que j'avais l'impression que c'était un signe un peu.
Oui, mais là vous avez une boucle d'oreille.
Là, on m'en a refait une petite là qui est plus argent que doré. Mais en fait, c'était comme si tu avais un signe de en guise de protection. C'est pas de te montrer en fait sa religion, sa foi, parce qu'en plus aujourd'hui en France, même si on est un pays laïque, ça devient compliqué aujourd'hui de porter un signe, un symbole en tout cas. Même ma femme me disait, mais pourquoi tu remets ça ? Ça se trouve un jour tu vas te faire couper l'oreille à cause de ça.
Ah oui, carrément.
Bah oui, commence à arracher le.
Non, ouais, mais on se pose la question de savoir si on est vraiment encore, on va dire, en liberté, en disant est-ce que j'ai le droit de porter ceci, de faire ceci, de dire cela. Ça, je trouve, c'est aujourd'hui. C'est compliqué. Maintenant, bon, voilà, on vit avec notre temps. J'ai remis cette petite croix. J'aurais pu mettre aussi. C'est peut-être parfois plus un bijou plutôt qu'une. Moi, je crois à ce qui m'accompagne aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, j'ai pas vu Dieu en face de moi qui m'a dit tu vas être ceci, tu vas être cela, tu vas faire ci, je vais te donner des pouvoirs et voilà, on va croire en Dieu, quoi.
Il est toujours discret, le Seigneur, en général. Ouais. Après, il y a des mystiques, effectivement, qui ont fondé des rencontres. Et vous, la rencontre aussi décisive de votre vie, que ce soit Nelson ou Philippe, c'est votre couple, parce que vous êtes marié, et vous parliez il y a un instant de votre épouse, Vous êtes un vrai duo, vous êtes un, ça c'est un véritable socle. Quand on vous entend, qu'elle fait cette remarque justement sur votre croix.
Mais d'ailleurs, Olivia, de toute façon, est d'origine juive, hein, donc alors de par son père, donc elle n'est pas réellement. Son père n'a jamais suivi la religion de son côté de la famille. Il s'engueulait souvent d'ailleurs avec ses frères et sœurs. Et donc nous, c'est pareil, on n'a pas fait baptiser nos enfants. On aura dit, vous serez libre demain de savoir quel chemin vous allez vouloir prendre. Et puis en fonction de l'amour, ça ne se contrôle pas. Je pense que ça ne doit pas être une barrière, en fait. Et ça ne doit pas être non plus un chemin de rapprochement parce que vous faites partie de la même religion. C'est d'abord l'amour qui compte. Et je pense que j'ai trouvé avec Olivia, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le chemin qu'on a eu ensemble. Moi, je ne me suis pas posé la question de toute ma vie de dire, ah bah, c'est bon, elle a une belle baraque, c'est un bon profit. Ah bah, c'est bon, c'est une religion qui m'ira bien. Non, je ne me suis pas posé la question. Moi, je suis là, je suis resté. Elle s'est battue aussi contre plein de gens qui auraient voulu un jour nous séparer. L'amour, a été plus fort que tout. Et puis, on est encore ensemble aujourd'hui. On a de très beaux enfants, un peu perturbés par ce côté sociétal que l'on traverse aujourd'hui. Mais ça fait partie, on va dire, l'évolution de notre existence, malheureusement, parfois.
Nelson Montfort, la vie conjugale, sans rentrer dans des détails privés, évidemment, on reste discret, mais la vie conjugale, tout un programme, et c'est vraiment magnifique. C'est un beau parcours de vie.
C'est-à-dire que je suis en plus dans une profession où un couple qui dure depuis bientôt 40 ans est une image rarissime, mais rarissime. Enfin, personnellement, je crois que je n'en connais aucun, en dehors de Philippe, mais ce n'est pas tout à fait 40 ans. Donc voilà, ça c'est une vraie, vraie fierté, effectivement, que Dominique et que nos deux filles, Isor et Victoria, qui sont le fruit de notre union, m'accompagne. Ça, c'est...
J'allais dire, surtout en plus, quand on est connu, on est souvent plus souvent chassé que chasseur.
Comme c'est juste.
Et donc, il faut résister à toute cette pression,
bien sûr,
de part et d'autre, de notre part à nous, mais aussi de nos compagnes.
Tout à l'heure, Nelson Montfort disait, je fais un signe de croix, je l'ai jamais dit, c'est quand même une chose assez très très belle et confidentielle que vous nous avez livrée là dans les athlètes de Dieu. Est-ce que Philippe, sur la glace, on rappelle, vous êtes double médaillé olympique, c'est quand même exceptionnel, est-ce qu'il y a eu une pensée à un moment donné vers quelque chose, vers l'au-delà, vers le Seigneur, là-haut ?
Là-haut, forcément, quand je fais... en fait, moi, je ne faisais pas un signe de croix, mais quand je faisais... souvent, je faisais un grand signe pour me ramener, en fait, de l'énergie.
Ouais.
Et à ce moment-là, quand tu fais ça, tu regardes le ciel et tu dis, bon, bah voilà, on y est, il faut... Si t'es là, vas-y, montre-moi.
Il ne l'a jamais dit.
Accompagne-moi.
C'est la première fois que j'entends Philippe parler comme ça. Et c'est la première fois que je parle, effectivement, de faire un signe de croix avant d'entrer sur la.
Merci pour ces confidences.
Encore une fois, en fait, tu dis, vas-y, c'est maintenant ou jamais, en fait, que tu dois me montrer que ton travail, le travail que j'ai fourni jusque-là et que maintenant, c'est. Parce que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est un saut sur 10 secondes. Hein. Si tu foires ce premier saut, en fait, c'est fini. Donc tu dis, il faut. Et d'ailleurs, quand je regarde les images. Images des Jeux Olympiques là, où j'ai fait les médailles sur le programme court, comme je dis, mon triple axel, il passe vraiment à pas grand chose. S'il n'y a pas l'aide de quelque chose, de quelqu'un, de l'énergie des gens, je crois beaucoup aussi à l'énergie des gens en fait, qui m'accompagnent, qui me boostent. Je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui a fait que j'ai eu la carrière que j'ai eue.
Alors, Philippe et Nelson, il y a des bougies encore, il y en a deux. Il faut en allumer une nouvelle.
Bon, alors la verte, tiens. Les derniers seront les premiers.
Les derniers seront les premiers.
Oui, quelque part. On dit souvent, dans une compétition, on parle du premier, mais aussi du dernier. Finalement.
Oui, mais vous avez été très souvent premier. Enfin, en tout cas,
vous n'avez pas été très souvent dernier, enfin, à ma connaissance.
Voilà. Et pas très souvent premier non plus.
Plus proche du premier que du dernier.
Double médaillé de bronze olympique en patinage.
Vice-champion du monde, quand même.
Si on regarde, c'est comme la Terre. À un moment donné, le dernier va se rapprocher du premier. Puisque tout est rond. Là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc finalement, c'est peut-être là où le dernier aura peut-être autant d'émotions et de questionnements sur lui-même, mais dans l'instant présent, alors que le premier, lui, les questionnements, il les aura bien plus tard.
Voilà. Mais c'est dur d'être dernier. Hein. Quand on est dans une compétition, on n'en parle pas.
Je crois que c'est plus dur d'être quatrième que d'être dernier.
Oui, aux Jeux Olympiques.
Parfois, il n'y a que quatre concurrents.
Pardonnez-moi. Alors, écoutez, on est dans les athlètes de Dieu, mais on va faire une petite digression. Nous allons vous demander de commenter du patinage. Parce qu'on est évidemment un petit peu triste de ne plus vous entendre sur le patinage. Donc, on a décidé de vous faire commenter au hasard Une petite compétition de patinage.
On n'est plus entraîné, hein, attention.
Non, 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 mais donc on va voir si vous savez commenter. Donc on va faire comme ça, voilà. Et 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, vous avez commenté, c'est au hasard. Hein. On a pris un.
Ah bah au hasard.
C'est une compétition.
Alors, écoutez, Nelson, là, sur la glace, va se présenter un jeune homme.
Un jeune homme que nous apprenons à connaître.
Un jeune homme qui, voilà, à l'époque, n'avait que 26 ans.
Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'est que cinquième en entrant après le programme court, ce qui est relativement contre-performance. Mais là, il entre sur la glace pour son programme libre. Hein, et c'est donc Charles de Batz, alias D'Artagnan, qui va donc l'accompagner.
Alors, la petite anecdote concernant ce costume, Philippe nous faisait une confidence comme quoi, au moment de la prise des mesures, le couturier était un petit peu proche de son anatomie. Et du coup, ils sont tombés, je crois, amoureux l'un de l'autre.
Alors,
ce qui est sorti, ce beau costume justement bien moulé avec ses bottes, petites bottes en cuir. Si vous voyez ce que je veux dire, Nelson, ça nous rappelle quelques soirées intimes.
Alors,
qu'est-ce que vous voulez ajouter à cela ?
Écoutez, ce sont les Jeux Olympiques et c'est bien sûr la première médaille de bronze. C'est D'Artagnan, c'est Philippe Candeloro.
C'est la deuxième de mémoire.
C'est la deuxième.
Philippe Candeloro sur la glace.
98, c'est la deuxième.
Ici, c'est son triple axel qui donc passe de justesse. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il passe quand même assez bien. Voilà.
J'ai l'impression que vous changez de lunettes.
Donc c'est la deuxième.
C'est D'Artagnan.
Voilà,
c'est
médaille de bronze, c'est voilà. D'Artagnan.
Voilà, absolument.
Philippe Candeloro, Nelson Montfort.
Voilà, en direct.
Bah, Nelson commentait d'ailleurs ces images-là à cette voilà. époque-là. Hein.
Et ça a été un moment incroyable, ça, à commenter, Nelson.
Oui, parce que de mémoire, le podium n'était pas acquis, ni même bon, la médaille d'or, c'est un petit peu difficile à aller chercher.
Il y avait du monde,
au Portillon.
Il y avait au Portillon, il y avait de la concurrence.
Todd Eldredge, USA, Elvis Stoïko, Canada,
et puis Ilya
Kulik, Russie, à l'époque, Russie, oui.
Scott Davis aussi qui était là, qui était un quelqu'un qui aurait pu prendre la place sur le podium.
Et grâce à ce programme, Philippe, Elvis Stoïko qui finalement terminé deuxième de mémoire, mais grâce à ce programme, Philippe a non seulement monté sur le podium à la troisième place, mais je crois était tout près de la médaille d'argent. Je crois qu'il fallait
un dixième près. Stoïko était blessé à cette Olympiade-là. Il a quand même été au bout. En fait, moi, ce qui me plaît dans l'exploit sportif, c'est la combativité. Des gens, en fait. Moi, je m'en foutais si quelqu'un me battait, parce que s'il était meilleur que moi ce jour-là, ou s'il m'a démontré qu'il a eu encore plus l'écro, plus la foi, ça me tranquillisait, en fait. Je me dis, s'il est meilleur, il est meilleur. Moi, j'ai donné ce que je pouvais pas faire beaucoup mieux ce jour-là. D'ailleurs, ce qui a beaucoup plu dans ce programme, c'est la partie chorégraphique, la partie KPDP, le côté théâtral que j'ai amené.
Sans épée.
D'ailleurs, ce programme-là, à chaque Olympiade, repasse régulièrement de la part du CIO, parce que c'est des programmes qui ont marqué, comme celui de Thorvillendine sur Boléro de Ravel. Ça fait partie des programmes répertoires des Jeux Olympiques, donc quelque part, et je me souviens très bien, à une minute de la fin, je fais la grande traversée de la suite de pas là, avec l'épée.
Ah oui,
et je sens les gens, tout le monde en fait, même les Américains qui étaient là ou les Canadiens qui étaient là pour supporter leur candidat quelque part, j'ai senti cette ferveur des gens qui t'accompagnent, qui te boostent. Donc 4 minutes 50 à l'époque le programme, j'étais crevé à ce moment-là. Et puis en plus, moi dans ma tête, je donne beaucoup d'énergie dans cette suite de pas et 10 secondes plus tard, je dois me rebalancer pour un triple axel. Et là,
c'est terrible parce que le triple axel, c'est
le deuxième triple axel du programme. À l'époque, il n'y avait pas encore écrit ici, c'est le Rydberger. On le commente live. À l'époque, il n'y avait pas encore de quadruple saut de mémoire.
Non, Kulik faisait deux quadruples boucles piquées dans son programme. Moi, je les avais pas assez, on va dire, assurés pour pouvoir les mettre dans un programme, au risque de me casser la figure. Donc, on était mes deux programmes, c'était avec le triple axel, triple piqué, qui était très bien passé dans ce programme. Puis voilà, après, la grande suite de pas, d'un seul coup, tu sors là, les gens.
Alors, Philippe, sur ce costume, il y a une croix.
Oui. Bah, oui. C'était pour respecter la croix, plus la croix des mousquetaires. D'ailleurs, c'était une idée de mes costumiers, s'appelaient les mauvais garçons. Et j'aimais bien ces costumiers parce qu'ils avaient chacun leur personnalité, ils étaient trois. Il y en avait un qui avait le côté artistique, l'autre qui avait le côté couture et l'autre qui avait le côté un peu théâtral. Et d'ailleurs, c'était des costumes, j'avais changé d'habilleur et on est passé dans c'était des spécialistes du théâtre, pas du patinage. C'est pour ça que ce ne sont pas des costumes. Ah ouais, le triple XL qui est parti légèrement sur la droite, là, c'est dommage.
Parce qu'il y a toujours les images.
Ouais. Et donc, en fait, ça donnait plus de posture. Ouais. On était déjà, j'avais passé depuis un petit moment, hein, parce que avant c'était.
La fin de programme était un peu plus délicate. Ouais, hein, mais vous restez debout.
Bah, trip salco, ouais, sur la fin, évidemment.
Bah, après 4 minutes.
Qu'est-ce qui est le plus dur, là, dans toutes ces figures?
Le plus dur, c'est de ne pas en rater une.
Ouais. deuxièmement, d'attendre le résultat.
Là, alors ça, c'est dur. Ma grande chance, c'est que j'étais l'avant-dernier du groupe. Par contre, j'ai attendu 40 minutes dans le couloir. J'ai appelé ça le couloir de la mort.
Ah oui, carrément.
Parce qu'en fait, tu passes par un tas d'émotions. Et c'est là où tu te dis, c'est la fin. J'avais dit à mon prof, là, je sens que je ne peux plus être en capacité de résister à cette pression dans le bide. Mmh. Tout ça, quand tu entends le concurrent d'avant, il passe. Mmh. Mais maintenant, il y a des écrans vidéo en plus. Donc, tu peux regarder si tu veux. Mmh. Quand tu entends les gens te faire « Waouh !» applaudissements, tu sais qu'il a réussi son quadruple à ce moment-là, parce que tu connais le programme par cœur du concurrent. Et puis quand tu entends des « Oh !», ça veut dire que dans ta tête, tu dis « S'il a raté, c'est que moi, je peux devenir premier. » Et donc, tu subis ça pendant 40 minutes sur chaque candidat.
Et comment ça s'est passé à la fin, quand il y a la médaille de bronze?
Là, moi, j'ai réussi à aller à 97% du maximum de ce que je pouvais faire, moi, perso. Donc après, c'est les juges qui jugent.
Mm-hmm. Il restait un concurrent derrière qui était assez
lus. Stoïko. Ah oui. Kulik, il était quasiment intouchable.
Explosion de joie à la fin.
On le voit sur les images, on le voit. Et puis c'est tout. La récompense pour moi, Alex, c'est je tire ma révérence. Je suis dans un costume d'un personnage français, D'Artagnan, qui tire sa révérence parce que ça va être ses derniers Jeux Olympiques, je le sais. Et je suis déjà médaillé olympique. Donc en fait, la grosse difficulté, c'est que tu viens défendre encore une médaille que t'espères terminer avec autour du cou parce que ça va être la fin.
Alors si, Nelson Montfort, si Jésus était patineur, est-ce qu'il aurait été Philippe Candeloro?
Vous avez des questions très inattendues.
C'est un peu le but du podcast.
Oui,
pense à moi quand j'ai fait Georges de la Jungle. Sur glace, Georges de la Jungle.
Ça, c'est génial.
Devant 25 000 personnes finir en slip léopard, je peux te dire que.
Donc là,
je ne suis pas sûr.
Voilà, c'est ça, oui. Je ne suis pas sûr que. Mais je pense que ce programme qu'on vient de voir, avec une croix qui effectivement peut se confondre avec la croix du Seigneur, je pense qu'il y aurait trouvé son compte.
Ouais. Oui, puis un caractère aussi affirmé comme l'était le Seigneur quand il est allé annoncer la bonne nouvelle.
Il y a eu beaucoup d'événements.
Philippe Candeloro, si Jésus était commentateur, est-ce qu'il aurait été Nelson Montfort?
Oh, certainement, mais enfin moi, il aurait vite fait couper la télé parfois. pour aider ses fidèles à bien dormir.
Alors, Nelson Montfort, est-ce que Jésus préfère les gagnants ou les perdants?
Les perdants.
Ah ouais? Il n'aime pas les gagnants?
Je réponds même avant la fin de la question, parce que les perdants ont besoin de consolation, les perdants ont besoin d'empathie, les perdants ont besoin qu'on les entoure, qu'on les aime et tout. Vous savez, ce qui se passe, c'est que, je pense que Philippe confirmera, quand il y a la victoire, tout est facile, je veux dire, tout le monde, on est heureux, etc. Moi, sur les interviews, j'en ai quand même fait quelques-unes, celles dont je garde le souvenir le plus fort, c'est avec les déçus, ceux qui terminent quatrième, ceux qui, ou pire, je veux dire, voilà, tout ça. Donc, je pense que le Seigneur console beaucoup plus les perdants. Je ne veux pas dire que les gagnants n'ont pas besoin du Seigneur, mais enfin, en tout cas, ils n'en ont pas besoin au moment où ils gagnent. Mmh. Après, alors que les perdants en ont besoin tout de suite.
Philippe.
Tout de suite.
Je partage complètement. Ah ouais. C'est que le gagnant, il a plus besoin peut-être de quelqu'un qui lui laisse les pieds sur terre. Alors que le perdant, il a plus besoin quand justement on l'élève vers le haut.
Alors, on a l'évangile des sportifs qui a été distribué pendant les Jeux Olympiques. Et si vous le voulez bien, on aimerait beaucoup que vous puissiez lire un passage de l'évangile.
Moi, c'est mort.
Qui va très bien.
Je ne sais pas lire et en plus, je n'ai pas mes loupes.
Eh bien, c'est pas grave, ça va être Nelson. Un passage de l'évangile qui va bien résumer votre amitié. C'est Jean 13 à partir du verset 34. Jésus, à ce moment-là, annonce que Judas va le livrer. Et donc, on est ici. Regardez.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé.
Aimez-vous les uns les autres. Et le verset d'après?
Je pense qu'il n'y a pas de plus belle. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Bah, je pense qu'il n'y a, pas beaucoup plus beau que cela. Je regrette parfois que ce livre a été donc distribué aux sportifs pendant les JO de Paris 2024. J'en avais entendu parler, nous l'avions même présenté à l'antenne, Isabelle doit s'en souvenir. Mais est-ce que tout le monde, est-ce que tous les sportifs olympiques... respecte cela, ce serait normalement c'est naïf pour le croire.
Pas seulement les sportifs olympiques. Moi, je pense que le sport est normalement une exemplarité du fair play. Donc, le fair play, pour moi, représente ce que Nelson vient de lire.
Le problème, c'est que malheureusement,
le monde et l'argent et la réussite et le pouvoir et tout ça fait que ces valeurs-là, j'ai l'impression qu'elles sont pas toujours.
Tout cas, vous êtes très fair play. Et jamais on n'a entendu de commentaires négatifs de votre duo. Et ça, c'est aussi une preuve de vos grandes et belles valeurs. Messieurs, on va allumer la dernière bougie de cette émission.
C'est toi. C'est moi. Vas-y.
Donc c'est la bleue. C'est la bleue. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors ça, c'est intéressant. C'est peut-être un petit peu lié à ce dont nous venons de parler. Lorsque je suis faible, c'est-à-dire que lorsqu'on a une je prends une métaphore sportive, évidemment, une contre-performance ou autre, c'est alors que je suis fort.
C'était une métaphore conjugale. la référence peut pas avoir lieu.
Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? C'est vrai, difficile d'enchaîner. Voilà.
Alors, ça, on vous retrouve bien.
Mais
blagues de seconde
degré. C'est pour ça qu'on l'aime.
Et sinon, j'ai plus rien à faire sur cette planète si je peux plus sortir des conneries pareilles.
c'est là où justement le Seigneur peut apporter beaucoup. Je pense que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ça, c'est grâce à l'aide de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est celui dont nous parlons depuis le début de cette émission.
Il y a l'entourage. Le quelqu'un dont Nelson parle, je pense qu'il peut être aussi avec ceux qui vous entourent.
Bien sûr.
Oui, parce que la transmission de la foi et quand on vit cette foi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi d'être tourné vers les autres. Donc c'est un savoir vivre, presque une philosophie de vie où on se tourne vers le bonheur des gens. Alors, question à vous poser, Nelson Montfort et Philippe Candeloro, ce sont des questions traditionnelles que nous posons à nos invités. Est-ce qu'il y a une musique qui vous apaise? On va commencer par Nelson parce que Nelson est un mélomane. Est-ce qu'il y a une musique en particulier qui est vraiment pour vous primordiale et que en tête de la liste?
S'il faut, j'hésite entre. Je dirais le cœur d'entrée de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
Jean-Sébastien Bach.
Ou toujours du même Bach, le Root Wall qui est la sortie de la Passion selon saint Jean.
C'est intéressant parce que vous avez choisi Bach, vous n'êtes pas le seul à avoir choisi Bach. Il y a aussi Gianni Longo qui a choisi Bach. Il y a une certaine rigueur dans Bach. C'est une musique un peu baroque. C'est pas du romantisme à la Chopin, si vous voulez.
Non.
C'est intéressant. Et c'est quoi? C'est parce que vous êtes très rigoureux dans votre vie. Je vois sur les horaires, sur la façon de vous habiller. Il y a une rigueur chez vous.
Les horaires? J'ai appris à Philippe la ponctualité. Parce que c'était pas gagné d'avance, croyez-moi.
Merci, mon Dieu. Merci, mon Nelson, pour ça.
Vous avez raison, il y a une rigueur dans l'écriture musicale, ça c'est certain, mais il y a également une spiritualité absolument énorme lorsqu'on l'écoute.
Jean-Sébastien Bach, qui a été enterré à Leipzig.
C'est exact.
Il a été le chaplain, c'est lui qui s'occupait de la musique là-bas.
Il écrivait, ça paraît absolument incroyable, il écrivait une cantate tous les dimanches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était, parce qu'il était entre deux églises, notamment l'église Saint-Thomas à Leipzig, à laquelle faisiez allusion. Alors, ça paraît absolument la force de travail de Jean-Sébastien, c'est vrai pour beaucoup d'autres musiciens classiques. Bon, lui a eu quand même un peu le privilège des années, même s'il nous a quittés à l'âge de 65 ans, ce qui pour l'époque était quand même assez âgé. Mais cette force de travail, effectivement, cette rigueur, vous avez raison, tant qu'il était très luthérien et dans sa manière d'être, peut-être que là aussi je m'y retrouve. C'est un musicien que, je pense que vous le sentez au ton de ma voix que j'aime profondément.
Ouais.
On écoute un extrait de Jean-Sébastien Bach sur Europe 1. Thank you. Est-ce que pour vous, la musique, Philippe Candeloro, on va vous poser la question et vous allez nous donner votre titre préféré, mais est-ce que c'est une forme de prière, écouter de la musique ?
Alors, c'est pas une prière, mais de toute façon, moi, la musique a toujours fait partie de ma vie, de ma carrière, puisque sans musique, j'aurais pas pu exprimer tous les personnages que j'ai faits. C'est toujours très associatif. Hein. Si on me demande une musique, j'aime bien la Vivo Perlei de Bocelli, qui chante en duo. Parce qu'en plus, elle me transporte vers mes origines, souvent.
Et ils sont deux, d'ailleurs, je crois.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes capable de nous chanter un extrait ou pas?
Vivo Perlei, la musique. Vivo Perlei, la. Bon, voilà, moi, je ne suis pas un mélomane comme Nelson. Et puis après, il y a une autre chanson qui s'apparente un petit peu plus, peut-être, justement, à cette foi. C'est L'envie d'aimer, des 10 commandements. Ça a toujours été une musique pour moi qui, déjà dans notre univers du patinage, permet des envolées extraordinaires qui sont en association complète avec notre façon de nous exprimer sur glace. Ouais. Ça fait voyager les gens, ça les fait, peu importe qui la chante, peu importe tu crois à ta religion ou quoi, okay, c'est, je trouve que c'est une musique qui emmène tout le monde vers le ciel. Voilà.
Envie d'aimer, on écoute extrait donc de cette comédie musicale des 10 commandements. Autre question importante, est-ce que vous avez une habitude, c'est-à-dire d'aller dans un lieu de ressourcement, un lieu qui vous apaise, un lieu où vous allez pouvoir peut-être passer du bon temps, quelque chose de récurrent ou pas? Est-ce qu'il y a un endroit sur cette magnifique terre, en France ou ailleurs, où vous aimez vous recueillir ou en tout cas aller vous reposer? Nelson Montfort.
Je pense que cette réponse va vous plaire parce que c'est un endroit relativement récent que je n'arrête pas de dire à Philippe de venir peut-être découvrir un jour. C'est dans les Vosges, c'est à Vintron dans les Vosges, non loin de Gérardmer. C'est une chapelle qui s'appelle la chapelle du frère Joseph, qui était un saint homme qui vivait au XVIIIe siècle. Bon, les hivers dans les Vosges sont très rudes, en tout cas, ils l'étaient beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui avec le réchauffement. Et dans cette petite chapelle qui date de la fin du règne Louis XIV, de 1711, je crois, etc. Vous avez tout pour répondre à votre question, Cyril. C'est une petite chapelle qui n'a pas bougé depuis donc plus de 3 siècles. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais il se trouve que celle-là, je l'ai découverte relativement récemment. Et voilà, je pense peut-être à bien d'autres, mais c'est, oui.
Mais il s'est passé quelque chose dans cette chapelle.
Oui, je pense que, d'ailleurs, ce que je précise aussi, mais Philippe y a fait allusion tout à l'heure quand il parlait de visite de cathédrale. D'ailleurs, j'étais récemment, tout récemment même à Amiens, où il y a une cathédrale absolument merveilleuse.
Les cathédrales gothiques en France.
Plus belles. Je crois que c'est la plus grande et pas loin d'être la plus belle. Je veux dire, enfin bon. Et en plus, ce jour-là.
Il y a Reims aussi. Je serais moi, j'aime beaucoup celle de Reims.
Très belle celle de Reims.
Mais quand le soleil faisait très beau, quand le soleil se reflète dans les vitraux bleus, il faut qu'il fasse beau. Parce que là, c'est tout à fait extraordinaire.
En fait, si on prend le temps de bien regarder tout ça, j'ai l'impression qu'effectivement, ça n'a pas été fait et ça n'a pas été mis là par hasard.
Et si je peux ajouter quelque chose, souvent, et d'ailleurs, Philippe en témoignait il y a quelques minutes, souvent dans ces endroits, on s'y rend seul. Enfin, moi, en ce qui me concerne, toujours. Seul. Et il y a quelque chose de différent.
Oui, parce que c'est une relation personnelle.
Oui, exactement, exactement.
Bah oui, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Toi, on n'impose à personne, en fait, ce que nous, on a envie à ce moment-là de se recueillir et de vivre.
Le principe même, justement, de notre foi, le principe même de la laïcité, vous en parliez tout à l'heure, c'est croire ou ne pas croire dans la liberté. Sans imposer.
C'est ça.
C'est extrêmement important. Vous avez raison, Philippe Candeloro.
Je pense que c'est très important. Alors moi, le lieu, c'est pas ça. Un lieu fermé, moi. C'est
alors plus, votre lieu, ouais, Nelson.
Moi, c'est plus la liberté, la nature. Je suis très attaché parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, des compétitions à droite, à gauche. Et puis je me souviens du côté de Foremeux, j'avais et là ça va me rattraper mon côté économe. J'avais planqué une pièce de 5 balles dans un tronc d'arbre. Et je me disais, à chaque fois que tu reviendras dans le coin, tu viendras voir si ta pièce elle est encore là. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était ma chapelle. Tu dis, t'es là, tu fais.
Est-ce qu'elle y était encore?
Bah non, j'ai jamais retrouvé. Ça fait chier.
Quelqu'un a dû vous la chipper.
Voilà, écoute, on lance un appel sur Rempart. Il y a une pièce de. Alors, c'était des francs à l'époque.
C'était des francs.
Donc, il y a une pièce de 5 francs qui appartient à Philippe Candeloro.
Dans un
merci
tronc
de la rapporter. Ouais. Dans un tronc d'arbre à Font-Romeu.
Du côté du plat, du plat des Abeillons, du côté de Font-Romeu, ouais, ceux qui habitent dans le coin.
La recherche s'annonce difficile, mais ça ne sait-on jamais.
Attends, on va essayer de la retrouver. Si on la retrouve, on la retrouvera.
Quand t'es gamin, tu crois à plein de trucs, tu t'imagines plein de choses, et puis tu reviens là 30 ans après. En fait, ça te permet. Moi, j'adore faire voyager les gens dans le temps parce que je pense être une machine pour les gens à voyager dans le temps. Quand ils me parlent aujourd'hui dans la rue, on dit « vous nous avez fait rêver avec votre patinage ». Donc en fait, je leur ai procuré un moment, un instant T qui reste dans leur mémoire. Et c'est pareil pour moi quand je voyage quelque part.
Je pensais pas le dire, mais là, c'est tout à fait lié. Il se trouve que pendant 30 ans, j'ai suivi le tournoi de tennis de Roland-Garros, comme vous le savez. Il y avait un arbre un petit peu en dehors de pas au pied du cours central, mais...
Pas au centre.
Voilà. Non, du côté du cours Suzanne Lenglen, voilà. Mais assez isolé. Et chaque début de tournoi, pas pendant 30 ans, mais enfin pendant les 10 dernières années, chaque début de tournoi, je mettais un petit cœur et une croix.
Ah, c'est beau.
Et alors là, effectivement, l'hiver, évidemment, mais souvent, je retrouvais traces d'eux. Évidemment, la pluie, la neige, etc., faisait que ça disparaissait, mais souvent, je retrouvais.
Et toujours, les athlètes, voilà. Hein, parce qu'on reste dans l'émission. On est très superstitieux.
Ah ouais.
Moi, c'est pareil, j'avais une paire de chaussettes que je mettais toujours pour le programme. Il y avait des trous, des machins. Et des fois, elle tenait même debout toute seule, mais je voulais la mettre parce que je m'étais dit, c'était la paire de chaussettes qu'elle allait me faire gagner.
La paire de chaussettes.
Rafa mettait toujours le même slip.
Rafa Nadal, il met toujours
le même. Alors évidemment, comme il ne jouait pas tous les jours, vu qu'il se promenait, il jouait tous les 2-3 jours, je pense qu'il avait le temps de le laver. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails.
Ah oui, mais, donc, vous la tenez de Rafa
Philippe,
Nadal.
Rafa, c'était la superstition née. Je ne sais pas si vous souvenez.
Les gestes, c'est tic,
etc. La mèche, les cheveux, comment. Et puis surtout, il traversait jamais les lignes. Il traversait toujours le quoi, ça. Mais c'était presque ma femme maladif, entre guillemets, parce que si on en joue, je passe. On ne
peut pas se laisser non plus envahir.
La différence, et Nelson, entre superstition et croyance?
Ouais, je pense que les deux se rejoignent à un moment donné. C'est pas la même définition, mais je pense qu'à un moment donné, il y a une convergence inexplicable.
Je suis assez d'accord.
On arrive bientôt à la fin de l'émission, mais j'ai quand même 2-3 questions encore à vous poser à Nelson Monfort et à Philippe Candeloro. Vous avez interrogé, Nelson, des athlètes comme Bolt, Carl Lewis, Michael Johnson, Léon Marchand, Michael Phelps, Nadal, Federer, Djokovic, Bill Clinton. Quelle est votre plus belle interview?
Je pense que... Bon, il y en a beaucoup, hein. Je pense que... En sport, c'est vrai que j'ai toujours aimé les outsiders. Et aux Jeux Olympiques de Londres 2012, l'équipe de France du relais 4x100 mètres nage libre... Là, vous parliez de Marchand à l'instant. La natation française n'a pas commencé avec Marchand. Il y a eu des...
Évidemment.
Voilà. Et le relais 4x100 mètres, on dit parfois que ça illustre un peu la force d'une natation. Parce que bon, un athlète, c'est une chose, mais un relais, bon. Et là, l'équipe de France du relais 4x100 mètres se présente en finale avec, je crois, le 5 ou 6e temps, un peu comme Philippe qui rentre sur la glace avec le 5e classement, enfin, classé 5e avant le programme libre. Donc, ils étaient vraiment outsiders. Vous aviez USA, Canada, Russie, Chine, Japon, Australie, enfin bref. Et l'équipe de France remporte la course, gagne devant l'USA de Michael Phelps. Et je crois n'avoir jamais vu quatre garçons aussi heureux. Vraiment, ils resplendissaient de bonheur. C'est un bonheur. Et à la limite, il n'y a presque pas de questions à poser. Ça partageait notre bonheur. Donc, dans l'ordre, je crois avoir bonne mémoire. Philippe me dit que j'ai souvent une bonne mémoire. Amaury Levaux, Clément Lefer, Fabien Gillot et Yannick Agnel. Et donc Yannick Agnel, en plus, auteur d'un dernier relais extraordinaire, parce qu'il ne prend pas en tête. Il prend deuxième ou troisième, mais bon. Et longue interview est très belle. Et Yannick me souffle à l'oreille, tu es comme notre 5e relayeur. Wow. Ça, j'y pense encore aujourd'hui. Ça fait 13 ans, n'est-ce pas? Mais j'y pense encore aujourd'hui.
Wow, ouais, bravo, Nelson.
Ouais, je me dis là, ce métier vaut la peine d'être vécu. Ouais.
Philippe, votre plus beau moment sur la glace?
Moi, je dis toujours, quand on me pose cette question, comme pour le meilleur personnage, machin, c'est que, en fait, ça n'a que des meilleurs moments pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais lever une foule de 25 000 personnes dans une arène, bah, tu te dis, oui, tu as fait quelque chose de bien dans ta carrière ou dans ta vie.
Dans ta vie.
C'est ça, le procurer du plaisir aux gens, j'ai toujours voulu ça, en fait, quelque part. C'est pour ça que la notoriété, moi, je la vis bien tous les jours, dans la rue, je ne me cache pas. Parce que quand j'étais gamin, je rêvais de ça. Donc aujourd'hui, je l'ai, j'essaie de l'entretenir, j'essaie d'être le plus humble et le plus simple possible, comme les gens que je peux croiser dans la rue.
Très rapidement,
j'en suis le témoin.
Nelson Monfort, Philippe Candeloro, très rapidement, est-ce que vous avez une figure qui vous inspire?
Un triple axel, vous voulez dire?
Non, un saint ou pas un saint, un homme, une femme.
Je pense que là, je vous réponds directement parce que nous sommes dans une émission qui, je pense, le justifie. La figure de saint Paul m'interpelle.
La conversion.
Parce que la conversion de saint Paul. Ouais. Ouais.
Moi, c'est plus. J'aime bien les dessins stylisés un petit peu, qui met en lumière en fait les religions.
Voilà. C'est-à-dire ?
Bah en fait c'est pas la religion, c'est pas ça, c'est plein de choses et quand on va la dessiner artistiquement parlant, ça va plus m'inspirer.
Les athlètes de Dieu, dernière question, Nelson Monfort, Philippe Candeloro, à quel athlète, peut-être un patineur chrétien, peut-être un athlète qui a cette foi, vous souhaiteriez transmettre le flambeau pour que cet athlète puisse venir dans cette émission sur Europe 1. Nelson Monfort,
c'est-à-dire que si Philippe n'avait pas été déjà l'invité, j'aurais dit Philippe, mais un athlète d'aujourd'hui.
En tennis, en natation.
Oui, justement non, je pensais peut-être au tennis parce que c'est un garçon qui tire sa révérence cette année, que j'ai toujours beaucoup aimé, qui, je pense, aurait pu faire une carrière plus forte que. Et peut-être même le seul joueur français qui aurait pu peut-être gagner Roland. Enfin, gagner, il y avait Rafa. Mais enfin, donc, vous allez deviner de qui il s'agit. Il tire sa révérence cette année.
Gaël,
son prénom
est
Gaël. Voilà. Exactement.
C'est vrai qu'il
je pense que Gaël, mon fils,
aurait une très belle carrière.
Ouais, il a eu une belle carrière, mais peut-être aurait sans blessure, sans voilà. Gaël, mon fils.
Il a été une carrière médiatique beaucoup plus importante que.
Et puis mon fils, c'est plutôt un joli nom pour cette émission.
Oui. Mon fils, mon frère.
Voilà. Moi, je dirais. j'aimerais bien parce que c'est des confidences que Souria n'a jamais fait, mais Souria Bonali pourrait être une personne intéressante à inviter ici pour savoir comment elle se compare à la foi, à tout ce phénomène, tout ce qu'elle a vécu, ce racisme,
C'est incroyable. Moi, j'ai une admiration pour elle. Elle aurait dû être championne olympique 1000 fois. C'était la meilleure patineuse. Malheureusement, elle n'a pas pu pour plein de raisons. Mais ça a été sans doute. Elle savait tout faire. Elle faisait du quadruple axel. Enfin, elle faisait tout. Elle savait faire des retournées.
Pas tout à fait quadruple axel, mais presque.
Elle doit avoir un tas de choses à dire.
Voilà.
En tout cas, c'était la première fille au monde à faire le salto arrière. Ouais, et ça, aujourd'hui, on parle des jeunes qui font le salto arrière, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ou 40 ans, Souria le faisait déjà. Elle était déjà là.
Merci, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
Très bien.
Nelson Monfort, Philippe Candeloro. Et soyez bénis, comme on peut évidemment le dire dans cette
Holy
émission.
Games et athlète de Dieu.
Et que Dieu fasse en sorte que je retrouve ma pièce de 5 francs.
À bientôt, Philippe.
À bientôt.
Au revoir, Nelson.
Au revoir, c'est vrai.
Vous venez